Bienvenue pour cette nouvelle exploration de nos sources. Aujourd'hui, on parle d'un nom incontournable en analyse technique, John Bollinger.
Ah, les fameuses bandes de Bollinger.
Exactement. On va s'appuyer sur des extraits de John Bollinger, le visionnaire des bandes de trading, pour comprendre son parcours, l'idée derrière son invention et pourquoi cet outil est toujours aussi pertinent. Et son parcours est fascinant, c'est vrai. John Bollinger, né en 1950, il n'a pas commencé par la finance, loin de là.
Non, c'est ça qui est étonnant. Il venait d'où déjà ?
De l'image. Photographie, cinéma, à UCLA. Donc une vraie sensibilité visuelle, une capacité à lire les formes, les patterns.
Et ça va influencer son approche de l'analyse technique plus tard, j'imagine.
Tout à fait. Début des années 80, il change de voie, devient analyste financier à Wall Street. Pile au moment où l'informatique commence à s'installer dans l'analyse.
Donc il y a cette rencontre entre son œil, disons, d'artiste et les nouvelles possibilités offertes par les machines.
C'est exactement ça. Et le contexte de l'époque est super important. En 1983, il est chez Financial News Network, qui deviendra CNBC plus tard, et il voit un problème.
Lequel ?
Les indicateurs techniques de l'époque, ils étaient rigides, statiques. Ils n'arrivaient pas à gérer la volatilité qui, elle, change tout le temps sur les marchés.
Ah, le fameux souffle du marché, comme on dit parfois. C'est là qu'il a son idée ?
Créer quelque chose de vivant.
Voilà, le mot-clé, c'est adaptatif. Il voulait un indicateur qui s'ajuste. Son concept est assez élégant, finalement. Une moyenne mobile simple, au milieu, pour la tendance. Ok, ça c'est classique.
Oui, mais la nouveauté, ce sont les deux bandes autour. Elles sont calculées avec l'écart-type de cette moyenne mobile. Et l'écart-type, c'est la mesure directe de la dispersion des prix, donc.
Donc de la volatilité. Si ça bouge fort, l'écart-type augmente, les bandes s'écartent. Si c'est calme, ça se resserre. C'est visuel.
Exactement. C'est comme une cartographie dynamique de la tension du marché. Ça montre si les prix sont hauts ou bas, mais relativement à la volatilité du moment.
Une idée brillante. Et ça a pris tout de suite ?
Assez rapidement, oui. Mais Bollinger a toujours beaucoup insisté sur les précautions d'usage. C'est pas magique. Il a même créé ses fameuses 22 règles pour guider l'interprétation.
Ah oui, les 22 règles atteintes. On ne va pas toutes les lister. Quels sont les points essentiels à retenir, les mises en garde ?
Bon, premièrement, les bandes décrivent la volatilité passée. Elles ne la prédisent pas. C'est une réaction, pas une anticipation. D'accord ? Ça suit, ça ne devance pas.
Voilà. Deuxièmement, dans un marché normal, la très grande majorité des prix, on parle de 90-95%, restent entre les bandes. Donc si un prix touche ou sort d'une bande...
Ce n'est pas forcément un signal pour sauter dessus et acheter ou vendre immédiatement. Beaucoup font cette erreur, non ?
Exactement.
Ça peut même signifier que la tendance actuelle est très forte et qu'elle va continuer. Toucher une bande, ça montre l'énergie du mouvement, pas nécessairement un point de retournement.
Donc la clé, c'est quoi ? La confirmation.
Absolument. C'est le point crucial pour Bollinger. Ne jamais utiliser les bandes seules. Jamais. Il faut les croiser, les confirmer avec d'autres indicateurs. Le RSI, le MACD, le stochastique, regarder les volumes, les figures de chandelier. Une analyse multifactorielle.
Et comme tout indicateur basé sur des moyennes, il y a forcément un petit temps de retard, non ?
Oui, inévitablement. C'est la nature des moyennes mobiles. Et bien sûr, comme tout outil statistique, il peut y avoir des faux signaux, surtout quand le marché est très erratique ou sans tendance claire.
Prudence, confirmation, les maîtres mots.
Toujours.
Et pourtant, ça fait 40 ans et on les voit absolument partout. Actions, forex, matières premières, même les cryptos. Pourquoi cette longévité incroyable ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, l'évidence visuelle. C'est très intuitif, même pour quelqu'un qui débute.
C'est vrai, ça parle tout de suite. En fait, qu'à polyvalence, ça marche sur n'importe quel marché, n'importe quelle unité de temps, du tick au mensuel. L'adaptabilité aussi. On peut jouer sur les paramètres, la période de la moyenne, le nombre d'écart-types. On peut les personnaliser un peu.
Voilà, et puis, faut le dire. Il y a une forme de validation par l'usage massif pendant des décennies. C'est devenu un standard.
Et Bollinger lui-même a contribué à cette popularité, non ? Par son livre, ses conférences.
Oui, Bollinger on Bollinger Bands en 2001, c'est une référence. C'est un bon pédagogue. Et il n'a pas fait que théoriser. Il a monté sa propre société de gestion, Bollinger Capital Management, dès 1988.
Il a appliqué ses propres outils.
Exactement. Son héritage, finalement, c'est plus que l'indicateur. C'est cette façon de lier les stats, la psycho des marchés et une visualisation claire. Il a un peu changé la façon de lire les graphiques. Donc, pour résumer, un parcours vraiment unique, de l'art à la finance, qui débouche sur un outil visuel, simple en apparence, mais puissant pour saisir cette notion clé qu'est la volatilité. C'est une bonne synthèse, oui.
Les bandes Bollinger donnent un cadre, une perspective, mais l'intelligence, elle est dans l'interprétation, dans le contexte et surtout dans la discipline de chercher confirmation ailleurs. Une approche critique, très fidèle à l'esprit de Bollinger lui-même. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être un peu pour ouvrir la réflexion. Si on pense à Bollinger venant des arts visuels, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui d'autres disciplines qu'on n'imagine pas forcément liées à la finance qui pourraient nous apporter des regards neufs, des façons innovantes d'analyser les marchés ou de visualiser l'économie ?